Allez au-delà des limites sur Altitude FM avec Alexis du comité départemental handisport Haute-Garonne.
Bonjour à tous, Alexis du comité handisport. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière chronique de Mars au féminin. La dernière thématique que nous allons aborder portera aujourd'hui sur la question suivante, une double invisibilisation, les femmes en situation de handicap dans le sport. Comme d'habitude, nous retrouvons Emma. Bonjour Emma.
Bonjour Alexis.
Tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Ouais, ça va, super. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi parler de genre et de handicap dans le milieu du sport ?
Alors, on parle de genre et de handicap dans le milieu du sport parce qu'en fait, le sport, il est souvent présenté comme un espace neutre qui est fondé sur le mérite et l'égalité des chances. Sauf qu'en fait, les chiffres, ils racontent une autre histoire. Si on prend les chiffres au niveau de la Haute-Garonne, les licenciés sportifs handisport actuels, c'est 66,5% des hommes et 33,5% des femmes. Donc déjà, on voit un écart. Et selon l'enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives menée en 2020 par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, il y a 36% des 15-64 ans en situation de handicap qui n'ont pratiqué aucune activité sportive dans l'année, soit 2,5 fois plus que la moyenne nationale. Ensuite, on note que 43% des personnes en situation de handicap pratiquent régulièrement une activité sportive contre 70% dans l'ensemble de la population. Ensuite, parmi ces personnes, il y a 48% des hommes qui pratiquent un sport contre seulement 39% des femmes. Et ensuite, une dernière statistique, il n'y a que 12% des personnes en situation de handicap qui détiennent une licence sportive contre 20% dans la population générale. Donc du coup, avec ces chiffres, on peut voir qu'être une femme et en situation de handicap, c'est cumuler des freins parce qu'elles font face à une double invisibilisation.
Tu nous parles donc de double invisibilisation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Alors en fait, ça renvoie au concept d'intersectionnalité qui a été développé par la juriste américaine Kimberly Crenshaw. En fait, l'idée, elle est simple, c'est que les discriminations, c'est pas seulement qu'elles s'additionnent, c'est aussi qu'elles se croisent et qu'elles vont produire des expériences spécifiques. Donc une femme en situation de handicap, elle ne vit pas simplement du sexisme et du validisme, en fait elle vit une situation particulière qui est à l'intersection de ses rapports de pouvoir. Et en fait le sport, c'est un terrain où ces croisements ils deviennent très visibles.
Et du coup, est-ce qu'on peut dire que le sport est vraiment un espace neutre ?
Pas vraiment, parce que le sport il s'est construit historiquement comme un espace masculin. Par exemple, quand Pierre de Courbetin a relancé les Jeux Olympiques modernes, il imagine un projet éducatif pour former les hommes, et il disait d'ailleurs que les femmes devaient se contenter de couronner les vainqueurs. Par exemple, au JO d'Athènes en 1896, aucune femme n'était autorisée parce que Pierre de Courbetin déclarait que le sport féminin était contre-indiqué. Donc en fait, le sport il devient un lieu de fabrication de la virilité, et le sociologue Pierre Bourdieu explique que les pratiques corporelles participent à l'incorporation des rapports sociaux de sexe. Donc la force et la combativité vont être valorisées comme masculines et la grâce et la souplesse comme féminines. Et ça se retrouve dans la hiérarchie des disciplines. Il y a le football et le rugby d'un côté qui vont être plutôt du coup associés à des valeurs masculines et la danse ou la gymnastique rythmique de l'autre plutôt associés à des valeurs féminines. Et les chiffres à l'école sont parlants parce que 77% des garçons pratiquent régulièrement un sport contre 60% des filles. Et les filles sont majoritaires du coup en danse, en équitation, en gymnastique, et les garçons ils dominent largement les sports collectifs.
Et du coup, quel est le rôle de l'école dans ces inégalités ?
Alors le rôle de l'école il est central parce que dès l'enfance, les filles sont davantage orientées vers des sports esthétiques, on les encourage moins à la compétition. Les garçons, eux, vont être socialisés à la performance, à la résistance à la douleur, à la prise de risque. Et pour les enfants en situation de handicap, s'ajoute aussi la surprotection. On va moins se les exposer à l'effort et moins se les encourager à faire de la compétition. Et du coup, ces socialisations différenciées, elles vont produire des écarts durables.
Et concernant le handicap, comment est-il perçu dans le sport ?
Donc le sport pour les personnes en situation de handicap, il a commencé à s'institutionnaliser réellement en France à partir des années 1960-1970 et il est présenté comme un vecteur d'intégration, mais il reste traversé par des représentations fortes. Le sport, il renvoie à la performance et au corps fort. Sauf qu'en fait, la relation entre le sport et le handicap, elle va se construire sur des notions qui sont assez antagonistes. Donc capacité versus incapacité, intégration contre exclusion, santé contre maladie. Et du coup, dans le sport, l'image de l'altérité du corps s'impose et en fait, il va masquer les sportifs derrière les handicapés. Donc le problème, c'est que les athlètes handicapés sont souvent perçus à travers le prisme du courage plutôt que de la performance. Et leurs exploits deviennent des récits de dépassement et pas réellement des performances techniques. Les Jeux paralympiques, ils ont permis d'améliorer la visibilité des athlètes en situation de handicap, mais la médiatisation, elle reste inférieure aux Jeux olympiques. Donc, ça révèle de nombreuses problématiques autour du handisport.
Selon toi, les femmes en situation de handicap doivent-elles davantage prouver leur légitimité ?
Alors oui, elles doivent d'autant plus prouver leur légitimité parce qu'en fait, il y a le concept de masculinité hégémonique qui a été développé par la sociologue australienne Rewyn Connell qui montre que le sport, il valorise un idéal. L'homme valide, jeune et performant. Donc du coup, les femmes, elles doivent prouver qu'elles sont vraiment sportives. Les personnes en situation de handicap doivent prouver qu'elles sont vraiment capables. Et du coup, quand on cumule les deux, la mise à l'épreuve, elle est permanente. Et du coup, dans la relation à l'entraîneur, ça peut prendre la forme d'infantilisation, de surprotection ou de sous-estimation. Donc ça fait différentes problématiques qui se croisent.
Et est-ce qu'il existe des modèles inspirants du côté du handisport ?
Oui, il existe des modèles inspirants et ils sont très importants. Donc en France, on a Marie-Amélie Le Fur, qui est multiple médaillée paralympique et qui incarne l'excellence sportive et qui a présidé le comité paralympique français. On a ensuite Sandrine Martinet, qui est judokate malvoyante et qui a aussi été championne paralympique. À l'international, on a Teresa Perales qui compte 28 médailles paralympiques. Et en fait, ces modèles, ils sont fondamentaux pour l'identification des jeunes sportifs. Ça permet d'avoir une représentation.
Et quels sont les leviers d'action, justement ?
Alors, il y a plusieurs leviers d'action qui sont possibles. On peut, dans un premier temps, former les encadrants aux enjeux de genre et de handicap. On peut aussi conditionner les subventions à des objectifs d'égalité. Il faut également rendre les infrastructures accessibles et aussi favoriser l'accès des femmes et des personnes en situation de handicap aux postes de décision. Et ce qui est important aussi par rapport à ce que je disais avant, c'est modifier le traitement médiatique en fait pour valoriser la performance et pas la compassion. Donc il ne s'agit pas seulement d'ajouter des femmes et des personnes en situation de handicap dans un système existant, il s'agit de transformer les normes qui définissent qui est légitime. Et donc du coup, pour conclure, comme j'ai pu dire auparavant, le sport n'est pas un espace neutre, il est traversé par les normes de genre et par le validisme, mais en fait il peut devenir aussi un levier de transformation sociale. Reconnaître les inégalités, ça ne revient pas à discréditer le sport. Ça permet au contraire de le rendre plus fidèle à ses valeurs, inclusion, mérite et égalité. Et c'est pourquoi il est important de prendre en compte le vécu des femmes en situation de handicap dans le sport pour garantir leur inclusion dans ce milieu.
Merci Emma pour cette belle conclusion et pour ces infos sur la thématique de la double invisibilisation. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir. Emma sera présente pour animer la table ronde avec des invités. Ce sera sur Ramonville. Donc, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à vous inscrire via nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Comité Handisport 31 ou alors par téléphone au 06 63 56 89 83. Merci Emma pour cette dernière chronique.
Merci à toi.
Et on se retrouve du coup le mois prochain pour une autre thématique. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Retrouvez-nous sur handisporthaute-garonne.org et les réseaux sociaux et dépassez vos limites.